Le Sénat a entamé, c'était lundi dernier, en présence du Premier ministre Bart De Wever, les débats devant mener à sa disparition. La disparition du Sénat, pas de Bart De Wever, bien sûr. Le soutien de partis d'opposition est indispensable pour y parvenir. Ceci pose d'ailleurs des conditions. Et même dans la majorité, quelques inquiétudes sont exprimées. On en parle ce matin avec Valérie Debut. Elle est vice-présidente du Sénat et sénatrice MR. Elle répond aux questions de Blaise van der Linden.
Valérie Debut, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, le Premier ministre Bart De Wever s'est rendu hier devant le Sénat. Il a continué sur sa lancée. Il n'a pas mis de gants pour expliquer aux sénateurs ce qu'il pensait de la Haute Assemblée. Il a détaillé sa volonté de supprimer l'institution. Alors, vous, en tant que vice-présidente du Sénat et sénatrice MR, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé ce lundi soir.
Alors, il faut savoir que la suppression du Sénat fait partie de l'accord de majorité Arizona. Donc, il est convenu que le Sénat serait supprimé. Et hier avaient lieu les premiers débats au sujet de la suppression du Sénat. La procédure est assez complexe et sera longue. C'était juste l'introduction, en fait, du sujet par le Premier ministre. Et donc, nous avons pas mal de travail puisqu'il y a quatre étapes importantes à mentionner. C'est que d'abord, il faut ouvrir certains articles de la Constitution via l'article 195 de la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui n'étaient pas prévus à révision lors de l'ancienne mandature. Et donc, il faut pour cela voter un certain nombre d'articles à réviser via le 195. Puis, la Chambre va devoir se positionner également. Et puis, seulement dans un deuxième temps, nous allons véritablement discuter de tous les articles qui vont mener à la suppression du Sénat.
Alors, les compétences du Sénat, elles se sont réduites au fil des réformes de l'État. Le chef du gouvernement a tiré une sévère conclusion hier. Il a déclaré « L'Assemblée se livre à une thérapie occupationnelle dont la contribution n'est ni essentielle ni nécessaire à notre démocratie ». Ce sont des mots très forts. Concrètement, Valérie Debut, aujourd'hui, on a l'impression que les citoyens belges ne savent pas vraiment ce que représente, ce que fait le Sénat. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors, il y a effectivement une évolution de l'institution au fil du temps, puisque historiquement, les pouvoirs du Sénat ont été modifiés. On peut remonter jusqu'à 1830, mais les évolutions les plus marquantes datent effectivement depuis 1993, où la Belgique est devenue un État fédéral. Et donc, la question du Sénat a toujours fait l'objet de débats. Et il faut reconnaître que la vision du rôle du Sénat n'est pas la même au nord du pays qu'au sud du pays. Principalement depuis 2014, les néerlandophones ont tendance à ne plus vouloir utiliser le Sénat comme lieu d'échange et lieu de carrefour entre les différentes communautés et régions du pays. Et du côté francophone, c'était plutôt un lieu de dialogue, un lieu aussi où on pouvait se concerter, élaborer des propositions communes et en tout cas, au niveau des entités fédérées, participer aussi à certains débats sur le plan fédéral, comme par exemple la révision de la Constitution ou certaines lois spéciales. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une divergence de vues entre différents partis, mais je dirais assez marqués entre le nord et le sud du pays. Et en 2014, il y a eu une réforme importante de l'État, c'est la sixième réforme de l'État qui se caractérise par un transfert massif de compétences vers les régions et les communautés et aussi une évolution du rôle du Sénat. Et le Sénat, depuis 2014, il a effectivement peu de compétences législatives et plus de compétences relatives à ce lieu d'échange et de carrefour entre les différentes communautés et régions. Et donc, c'est vrai que les francophones ont apporté une série de débats, mais les flamands n'ont jamais souhaité, particulièrement d'ailleurs, il l'a reconnu de manière très claire, le parti, la NVA, le parti du Premier ministre. Et donc, il est clair que face à cette situation, on peut comprendre qu'il y a des questions à se poser. Alors, soit on fait évoluer le Sénat, soit le supprimer. Bon, ma formation politique, nous étions plutôt favorables à faire évoluer le Sénat, effectivement, le rendre, ne plus nécessairement en faire une assemblée permanente, mais qu'il soit toujours cette institution, ce carrefour finalement entre nos différentes communautés et régions du pays. Il y avait différentes propositions qui étaient sur la table, mais comme vous le savez, dans le cadre de l'accord de majorité Arizona, eh bien la décision a été de voilà, d'œuvrer à sa suppression compte tenu de la montée en puissance des communautés régions dans notre pays, puisqu'il faut savoir que nous avons plusieurs parlements qui ont de réelles compétences en matière législative.
Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire des économies principalement.
Non, l'argument des économies qui a souvent été avancé par les partis flamands, hein, il faut le reconnaître, il ne tient pas la route. Parce que d'abord, le bâtiment, le Palais de la Nation, qui abrite à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, ben, c'est un bâtiment important dans notre histoire qui continuera à être utilisé, à accueillir les visiteurs. Donc, il y a, et aussi faire l'objet voilà, d'entretien, de travaux, puisque c'est quand même un bâtiment à haute valeur patrimoniale. Le personnel en fait du Sénat, au fil du temps, bien il a évolué. Il y a eu des noms remplacements. Il y a des synergies qui ont déjà été conclues avec la Chambre. Et lorsque j'ai eu la chance de présider le Sénat pendant 7 mois, on a mis en place un processus de fusion avec les services de la Chambre. Et donc le personnel va être absorbé par la Chambre, puisque la Chambre aura plus de compétences, puisqu'elle sera la seule institution. Nous aurons un système monocaméral. Et donc, voilà, le personnel devra de toute façon être payé. Et il y avait déjà beaucoup moins de collaborateurs attachés au Sénat. Et vous savez que les sénateurs ne sont pas payés par le Sénat, puisque nous venons, moi je suis élue dans le Parlement de Wallonie, et donc nous venons des entités régionales, et nous ne sommes pas rémunérés par le Sénat. Il y a seulement 10 sénateurs cooptés, donc en termes budgétaires, l'impact est vraiment très minime. C'était pas ça l'argument. Je pense que c'est une divergence de vue sur le fonctionnement global de l'État belge qui, voilà, qui est différente entre différents partis et qui a donc abouti sur cette décision de suppression du Sénat, mais dont les débats sont seulement en cours ou qui viennent de débuter, notamment hier en commission.
Pour terminer, la Belgique fédérale se dirige donc d'un système bicaméral à un système monocaméral, comme vous l'avez rappelé. Ce sera la première fois depuis 1831 et la création des institutions belges. Mine de rien, c'est quand même un petit séisme institutionnel, non?
Alors, c'est effectivement une évolution majeure, puisqu'effectivement, nous passons d'un système bicaméral à un système monocaméral, et donc c'est pour cela que nous devons travailler sérieusement. Il y a différents textes sur la table, nous devons évaluer l'impact de cette décision, de cette suppression sur l'ensemble de l'équilibre institutionnel belge. Et donc, mon groupe, on est très attentif à la qualité des textes, à la portée politique de tous les textes, notamment la protection des minorités, quid de la révision future de la Constitution, puisque actuellement, dans la réforme du Sénat de 2014, les entités fédérées étaient concertées, étaient même à la décision pour des révisions de la Constitution. C'était une prérogative du Sénat. Comment les entités fédérées, les régions, les communautés vont pouvoir participer à ces débats-là? La question, elle est posée, mais elle n'a pas encore trouvé de réponse. Il y a aussi toute la question de la représentation de la communauté germanophone, et une revendication qui est portée et qui est soutenue par mon groupe, c'est il faut garantir la participation de la communauté germanophone dans la chambre future, donc la future chambre des représentants, et ça, nous n'avons pas encore véritablement de réponse à cette question. Donc, voilà, les débats commencent, c'est très complexe, il faut le faire de manière rigoureuse, dans le respect de nos institutions, sur le plan juridique aussi, et il y a toute une série de questions qui doivent être résolues, je les ai citées, donc la communauté germanophone, quid des révisions futures de la Constitution, et aussi la participation des entités fédérées dans les relations internationales, puisque le Sénat, qui est composé de représentants régionaux, avait un certain rôle dans toute une série d'institutions internationales, par exemple le Conseil de l'Europe, l'OTAN, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, l'Assemblée parlementaire de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, eh bien toutes ces questions-là ne sont pas encore résolues. Quid de la participation des régions dans ces institutions? Le débat est ouvert et donc nous devons vraiment trouver des solutions pour que les régions puissent continuer à être entendues aussi sur la scène internationale.
Valérie Debuch, je rappelle que vous êtes vice-présidente du Sénat, sénatrice et maire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.